Chapitre 8e, la grande bataille du Cambridge. Tout en reculant, Alexandra ne cessait de se débattre contre cette main crispée dont l'étreinte l'exaspérait. L'antichambre traversée, Victor ferma derrière lui la porte du boudoir. Aussitôt elle s'écria « C'est odieux, de quel droit osez-vous ? » Il répéta lentement « L'hôtel est cerné par la police. » Les ripostes qu'il avait prévues lui furent opposées. « Et après, cela m'est indifférent. On relève la liste des Anglais. Ils vont être interrogés. C'est une question qui ne concerne pas la princesse Basileyev. Parmi ces Anglais, il y a M. Beamish. » À peine eut-elle un battement de paupières. Elle affirma « Je ne connais pas M. Beamish. » « mais si, c'est un Anglais qui habite cet étage au numéro 337. Je ne le connais pas. »« Vous le connaissez. Vous m'espionnez donc. Au besoin, pour vous secourir, comme à présent. » « Je n'ai pas besoin d'être secouru, surtout, surtout par moi. Voilà ce que vous voulez dire ? Par personne. Je vous en supplie, ne m'obligez pas à des explications inutiles. Nous avons si peu de temps, pas plus de 10 minutes. 10 minutes, vous entendez ? J'estime que d'ici 10 minutes au plus tard, deux inspecteurs entreront dans la chambre de M. Beamish et le prieront de descendre à la direction où il se trouvera en face du commissaire Mauléon. » Elle essaya de sourire. « Je le regrette pour ce pauvre M. Beamish. De quoi donc est-il accusé ? D'être un des deux hommes qui se sont évadés du bar de la rue Marbeuf, l'autre étant Arsène Lupin. Son cas est mauvais, dit-elle toujours calme. Si vous avez des sympathies pour ce personnage, téléphonez-lui, avertissez-le. Il jugera ce qu'il doit faire. Les communications téléphoniques sont interceptées. Enfin quoi ? Fit-elle plus nerveuse. Débrouillez-vous avec lui. Il y avait dans le ton de la jeune femme une insolence qui irrita Victor. Il répliqua sèchement « Vous ne comprenez pas bien la situation, madame. Les deux inspecteurs qui, dans 8 ou 10 minutes, frapperont chez Beamish, l'un le conduira à la direction, mais l'autre restera dans la chambre et fouillera. Tant pis pour lui. Et pour vous, peut-être. » « Pour moi. » Elle avait très sauté. Indignation, colère, inquiétude. Elle se domina encore et redit « Pour moi ? Quel rapport voyez-vous donc entre cet homme et moi ? Ce n'est pas mon ami. » « Peut-être. » Mais il agit de concert avec vous. Ne le niez pas, je vous en prie. Je sais, plus de choses que vous ne croyez. Du jour où vous avez accepté la perte de votre agrafe et où vous m'avez tendu la main, comment n'aurais-je pas voulu savoir pourquoi vous attachiez si peu d'importance à des actes de cette sorte? Et ce serait parce que j'en commettais moi-même? En tout cas, parce que ceux qui en commettent vous intriguent, et un soir je vous ai aperçu causant avec cet Anglais. C'est tout. Depuis, j'ai pénétré dans sa chambre et j'ai trouvé... « Quoi ? Une chose qui m'a renseigné sur vous. Quoi ? » fit-elle avec agitation. « Une chose que la police trouvera tout à l'heure. Mais parlez donc ! » Dans l'armoire du sieur Beamish, précisons, au milieu d'une pile de chemises, on découvrira un foulard de soie orange et vert. « Quoi ? Que dites-vous ? » dit-elle en se redressant. « Un foulard de soie orange et vert, le foulard avec lequel fut étranglée Élise Masson. Je l'y ai vu. Il est à cet endroit, dans l'armoire de l'Anglais. » D'un coup, la résistance de la princesse Basileyev s'effondra. Debout encore, mais vacillante, effarée, les lèvres qui tremblaient, elle bégaya. « Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. » Il continua implacable. « Je l'y ai vu. C'est le foulard que l'on cherche. Vous avez lu les journaux. Le foulard qu'Élise Masson portait toujours au cou, le matin, chez elle. Découvert entre les mains de l'Anglais, il établit son intervention indiscutable dans le crime de la rue de Vaugirard. Et l'intervention d'Arsène Lupin. Et s'il y a ce foulard, n'y a-t-il pas aussi d'autres preuves qui dévoileront la personnalité réelle de l'autre personne, de la femme ? Quelle femme ? Dit-elle entre ses dents. Leur complice, celle que j'ai rencontrée dans l'escalier, à l'heure du crime, celle qui a tué. Elle se jeta sur Victor et dans un élan qui était à la fois un aveu et un cri de protestation violente, elle s'exclama. Elle n'a pas tué ! J'affirme que cette femme n'a pas tué. Elle a horreur du crime, horreur du sang et de la mort. Elle n'a pas tué. Qui a tué en ce cas ? Elle ne répondit point. Les sentiments se succédaient en elle avec une incroyable rapidité. Son exaltation se dissipa et fit place à un accablement soudain. D'une voix si faible qu'il pouvait à peine l'entendre, elle chuchota. Tout cela importe peu. Pensez de moi ce que vous voulez, je m'en moque. D'ailleurs, je suis perdue. Tout se tourne contre moi. Pourquoi Beamish a-t-il gardé ce foulard ? Il était convenu qu'il s'en débarrasserait d'une façon ou de l'autre. Non, je suis perdu. Pourquoi ? Partez, Rien ne vous empêche de partir, vous ?
Non, dit-elle, je ne peux pas, je n'en ai pas la force.
Alors aidez-moi.
À quoi ?
À le prévenir, lui.
Comment ?
Je m'en charge.
Vous ne réussirez pas.
Si.
Vous reprendrez le foulard ?
Oui.
Et que deviendra de Bémiche ?
Je lui donnerai le moyen de s'évader.
Elle s'approcha, et Victor l'observa un instant. Elle reprenait courage. Ses yeux s'adoucissaient, et voilà qu'elle souriait presque devant cet homme, si âgé qu'il fût, mais sur qui elle croyait exercer son pouvoir de femme. Comment expliquer d'une autre manière ce dévouement qui s'offrait à elle sans condition ? Pourquoi aurait-il risqué de se perdre pour la sauver ? Elle-même, d'ailleurs, elle subissait la domination de ses yeux calmes, de ce visage dur. Elle lui tendit la main.
« Hâtez-vous, j'ai peur. »
« Peur pour lui. » « Je ne doutais pas de son dévouement, mais je ne sais plus. »
« M'obéira-t-il ? »
« Oui, il a peur, lui aussi. »
« Il se défie de moi, cependant ? » ?»«
Non, je ne crois pas. »
« Ouvrira-t-il sa porte ? » ?»«
Frappez deux fois, à trois reprises. »
« Vous n'avez pas entre vous quelques signes de ralliement ? » ?»«
Non, cette façon de frapper suffit. »
Comme il la quittait, elle le retint.
« Que dois-je faire ? Partir ? » ?»«
Ne bougez pas d'ici. »
« Quand l'alerte sera terminée, d'ici une heure, je reviendrai et nous aviserons. »«
Et si vous ne pouvez pas revenir ? » ?»«
Rendez-vous vendredi, square de la Tour Saint-Jacques. »
Il réfléchit en murmurant.
« Voyons, tout est bien réglé.
Je ne laisse aucune place au hasard.
Allons-y. Et ne bougez pas d'ici, je vous en conjure. »
Il épia dehors. Le couloir n'était plus désert, comme d'habitude. Il y avait des allées venues qui marquaient le début de l'agitation dans l'hôtel. Il attendit, puis se risqua. Une première étape le mena devant la grille de l'ascenseur. Personne. Il courut jusqu'au numéro 337 et vivement frappa, selon le rythme convenu. Un froissement de pas à l'intérieur. La serrure fonctionna. Il poussa le battant, vit Bémiche, et lui dit ce qu'il avait dit à la jeune femme. « L'hôtel est cerné par la police. On perquisitionne. » Il n'en fut pas avec l'anglais comme avec Alexandra. Il n'y eut ni résistance d'une part, ni effort de l'autre pour imposer une volonté agressive. Entre les deux hommes, ce fut l'accrochage immédiat. La situation apparut à l'anglais telle qu'elle était, et la peur le courba aussitôt sans qu'il cherchât à deviner pourquoi Victor l'avertissait. D'ailleurs, s'il comprenait bien le français, il le parlait à peine. Victor lui dit « Il faut m'obéir et tout de suite. On fouille toutes les chambres car on croit que l'anglais du bar de la rue Marbeuf se cache dans l'hôtel. » Vous serez un des premiers interrogés, comme suspect, à cause de votre prétendue foulure. Entre nous, le prétexte n'était pas très malin. Il fallait ou bien ne pas revenir ici, ou bien ne pas vous enfermer dans votre chambre. Avez-vous des papiers dangereux, des lettres ?
Non.
Rien qui puisse compromettre la princesse ?
Rien.
Farceur, donne-moi la clé de cette armoire. L'autre obéit. Victor démolit la pile des chemises, saisit le foulard de soie et l'empocha.
C'est tout ?
Oui.
Il est encore temps.
C'est bien tout ?
Oui.
Je te préviens que si tu essaies de trahir la princesse Basileïev, je te casserai la gueule. Prépare tes bottines, ton chapeau, ton pardessus. Tu vas décamper.
Mais la police ?
Fit Bémiche.
Silence. Tu connais la sortie de l'hôtel sur la rue de Ponthieu ?
Oui. Il n'y a qu'un agent qui la garde. L'anglais fit signe qu'il boxerait cet agent et passerait de force. Victor objecta.
Non, pas de bêtises, tu serais pincé.
Il prit sur la table une carte correspondance avec l'inscription de l'hôtel, écrivit « Laissez passer », data et signa « Commissaire Moléon ». Montre cette carte à l'agent de faction. La signature est exacte, j'en réponds. Et alors, file sans broncher, sans te retourner. Au coin de la rue, pas de gymnastique. L'anglais montra l'armoire pleine de son linge et de ses effets, ses objets de toilette, et eut un geste de regret.
« Eh bien, vrai,
ricana Victor, qu'est-ce qu'il te faut encore ? Une indemnité, ouste, apprête-toi. » Bémiche prit ses bottines, mais au même instant, on frappa. Victor s'inquiéta.
Crénon, si c'était eux.
Tant pis, on se débrouillera.
On frappa de nouveau.
Entrez, cria-t-il. L'anglais jeta ses bottines au bout de la chambre et s'allongea sur un canapé. Comme Victor allait ouvrir, on entendit le bruit d'une clé. C'était le valet d'étage qui se servait de son passe-partout. Deux inspecteurs l'accompagnaient, des collègues de Victor.
« Au revoir, cher monsieur, » dit-il à l'anglais en exagérant son accent de sud-américain. « Ravi que votre jambe se porte mieux. »
Il se heurta aux agents. L'un d'eux lui dit avec beaucoup de politesse. « Inspecteur Roubaud, de la police judiciaire, nous faisons une enquête dans l'hôtel. Puis-je vous demander depuis quand vous connaissez monsieur ? »
Monsieur Beamish, oh, depuis quelque temps, dans le hall, il m'a offert un cigare. Depuis qu'il s'est foulé le pied, je viens le visiter. » Il déclina son nom. « Marco Savisto. »« Péruvien, n'est-ce pas ? Vous êtes sur la liste des personnes auxquelles le commissaire désire poser quelques questions. Voulez-vous avoir l'obligeance de descendre au bureau ? Vous avez vos papiers sur vous ? Non, ils sont dans ma chambre, à cet étage. Mon collègue va vous accompagner. » L'inspecteur Roubaud regardait sur le canapé la jambe de l'anglais, la cheville bandée, et sur la table voisine, les compresses toutes prêtes. Il dit d'un ton plus sec. « Vous ne pouvez pas marcher, vous ?»« Non. »« Le commissaire va donc venir ici. Préviens-le, » dit-il à son collègue. « En attendant qu'il arrive, je vais examiner les papiers de l'anglais. » Victor suivit le collègue. Il ricanait en lui-même. Pas une fois l'inspecteur Roubaud, cantonné dans la mission qu'on lui avait confiée plus spécialement à l'égard de l'anglais, n'avait eu l'idée de l'examiner lui, Victor, avec un peu d'attention. Et pas un instant non plus, certainement, l'inspecteur Roubaud ne songea qu'il restait seul, enfermé avec un homme suspect et sans doute armé. Victor y songea, lui, et tandis qu'il recueillait dans l'armoire de sa chambre les papiers authentiques qu'il accréditait en tant que Marco Savisto, il se disait, en observant son gardien, « Que vais-je faire ? D'un croc en jambe, je le jette à terre, je l'enferme ici, et je me glisse dehors par la rue de Ponthieux. Mais était-ce bien utile ? Si Beamish, directement visé, se débarrassait ainsi de Roubaud et s'évadait grâce à la fausse carte signée de Moléon, que pouvait redouter Victor, lui ? Il se laissa docilement conduire. L'hôtel, cependant, s'agitait. En bas, le hall et le large vestibule se remplissaient de voyageurs ou de clients, curieux, bruyants, indignés si on les priait de ne pas sortir. Malgré tout, il y avait du désordre, et dans son bureau, le commissaire Moléon, qui commençait à être débordé, montrait de l'humeur. À peine s'il jeta un coup d'œil sur Victor, qu'il adressa tout de suite à l'un de ses assistants. Il ne se souciait évidemment que du sieur Beamish, contre qui s'élevaient de fortes présomptions. « Eh bien, et l'anglais ? » demanda-t-il à l'agent qui avait accompagné Victor. « Tu ne l'amènes pas ? » ?»« Il ne marche pas, à cause de sa foulure. » « Des blagues. Il me semble louche, ce bonhomme-là. Un gros, n'est-ce pas, figure rouge ? » ?»« Oui, et une moustache en brosse, très courte. » »« Très courte ? Pas d'erreur. Roubaud est resté avec lui ? » ?»« Oui. J'y vais. Accompagne-moi. » L'intrusion furieuse d'un voyageur que pressait l'heure du train et qui était inscrit sur la liste retarda Moléon. Il perdit là 2 minutes précieuses et 2 autres encore à donner des ordres. Enfin, il se leva. Victor, qui en avait fini avec l'examen de ses papiers, et qui ne demandait d'ailleurs aucun laissez-passer, le retrouva dans l'ascenseur avec l'inspecteur et un autre agent. Les 3 policiers ne parurent même pas le remarquer. Au 3e étage, ils se hâtèrent. Moléon frappa fortement au 337. « Ouvre-moi, Roubaud !» Il recommença, aussitôt irrité. « Ouvre-moi donc, nom d'un chien, Roubaud ! Roubaud !» Il appela le valet de chambre, le sommelier d'étage. Le valet déboucha de l'office, sa clé en main. Moléon le bouscula, de plus en plus inquiet. La porte fut ouverte. « Nom de Dieu !» s'écria le commissaire. « Je m'y attendais. » On apercevait dans la chambre, par terre, attaché avec des serviettes et un peignoir de bain, bâillonné, l'inspecteur Roubaud qui se débattait contre ses liens. « Pas blessé, hein, Roubaud ? Ah, le bandit, ce qu'il t'a ligoté ! Mais crebleu, comment t'es-tu laissé faire, un gaillard comme toi ?» On délivra l'inspecteur. Roubaud grinçait de rage. « Ils étaient 2 !» mâchonna-t-il hors de lui. « Oui, 2 ! D'où sortait l'autre ? Il devait être caché, il m'attaquait par derrière d'un coup sur la nuque. » Moléon agrippa le téléphone et commanda « Que personne ne quitte l'hôtel, pas d'exception, vous entendez ? Toute personne qui essaierait de s'enfuir doit être arrêtée, aucune exception n'est admise. » Et il proférait dans la chambre « Ainsi ils étaient 2 ici, mais d'où sortait l'autre ? Le second ? Tu ne dédoutais de rien ? » dit-il au collègue de Roubaud. « Cherche donc Bouffy. Avez-vous visité la salle de bain ? C'est là qu'il se cachait, pour sûr. » « Je crois, » dit Roubaud, « j'en ai eu l'impression, je tournais le dos à la salle de bain. » On la visita, aucune indication. Le verrou de la porte qui la faisait communiquer à l'occasion avec la chambre voisine était poussé normalement. « Qu'on fouille !» ordonna le commissaire. « Qu'on fouille à fond ! Roubaud, tu viens ? C'est en bas qu'il faut agir. » Il écarta les gens attroupés dans le couloir et il marchait à gauche vers l'ascenseur lorsque des clameurs arrivèrent du côté droit. Le couloir desservait le vaste quadrilatère que dessinait l'hôtel et il était probable, comme le fit remarquer Roubaud, que Beamish avait choisi le côté droit, pour gagner la façade postérieure qui domine la rue de Ponthieux. « Oui, mais l'harmonie est de garde, » dit Mauléon, « et la consigne est formelle. » Les clameurs augmentaient. Dès le premier tournant, ils virent des groupes à l'extrémité. On leur fit signe, on les appela. Dans un renfoncement, qui formait comme un salon d'hiver, encombré de palmiers et meublé de fauteuils, des personnes étaient penchées sur un corps étendu que l'une d'elles venait de découvrir entre les caisses de deux palmiers. Roubaud déclara « L'anglais, je le reconnais, il est couvert de sang. »« Comment, Beamish ? Mais il n'est pas mort, hein ?»« Non, » dit quelqu'un qui à genoux auscultait la victime, « mais sérieusement touché, un coup de couteau à l'épaule. »« Alors quoi, Roubaud ?» s'écria Mauléon. « Ce serait l'autre ? Ce serait celui qui était caché, qui t'a frappé dans le dos ? Parle-le, il a voulu se débarrasser de son complice. » Heureusement qu'on l'aura, puisque toutes les issues sont interdites. Victor, qui n'avait pas quitté les deux policiers, n'attendit pas, et à la faveur du tumulte, s'échappa vers le second escalier qu'il dégringola rapidement. Au rez-de-chaussée, la sortie de la rue de Ponthieu était proche. Des domestiques de l'hôtel en encombraient les abords, où veillaient l'Harmona et deux inspecteurs. Victor fit signe à l'Harmona qui manœuvra de façon à pouvoir lui parler. « Impossible de passer, Victor, la consigne !»« T'inquiète pas, je me débrouillerai sans toi. On t'a présenté une carte ?»« Oui. » »« Un faux, tout probable. »«
Cré bon sang !»
Le type a filé, dame. « Son signalement ?»« Pas fait attention, jeune d'allure. » »«
Alors tu ne sais pas qui c'était ?»«
Non. » »«
Arsène Lupin. »
La certitude de Victor, tout de suite... Elle s'imposa spontanément à tous ceux qui y vainquirent ces minutes d'affolement où se mêlaient, comme d'habitude avec Lupin, un côté comique, de la bouffonnerie et des airs de vaudeville. Mauléon, blême et déconcerté, affectant un calme que démentait sa pâleur, siégeait en permanence dans le bureau de la direction, ainsi qu'un chef d'armée en son quartier général. Il téléphonait à la préfecture, réclamait des renforts, expédiait des estafettes d'un bout à l'autre de l'hôtel, donnait des ordres contradictoires qui faisaient perdre la tête à tout le monde. On criait « Lupin, c'est Lupin, il est bloqué, on l'a vu !» L'anglais Beamish passa couché sur un brancard. On le portait à l'hôpital Beaujon, et le médecin de service affirma « La blessure n'est pas mortelle. Demain, il pourrait être interrogé. » Puis ce fut Roubaud qui arriva de la rue de Ponthieu, très agité. « Il s'est enfui par derrière. Il a remis à l'Harmona une carte signée de vous, chef. » Mauléon protesta violemment. « C'est un faux, je n'ai pas signé une seule carte !»« Fais venir l'Harmona. » »« La signature n'est même pas imitée. Il n'y a que Lupin pour avoir un culot pareil. Monte dans la chambre de l'anglais. Examine l'encrier, la plume, et s'il y a des cartes de l'hôtel. » Roubaud repartit comme une flèche. 5 minutes plus tard, il revenait. « L'encrier est encore ouvert. Le porte-plume n'est pas à sa place. Il y a des cartes de l'hôtel. » Donc le faux a été commis à cet endroit, tandis que tu t'es ficelé. Non, je l'aurais vu. L'anglais a mis ses souliers, et puis ils se sont trottés.
Mais ni l'un ni l'autre ne savaient qu'on enquêtait.
Peut-être.
Par qui?
Quand je suis entré dans la chambre, il y avait quelqu'un avec l'anglais, un type du Pérou.
Marco Savisto. Qu'est-il devenu, celui-là?
Nouvelle envolée de Roubaud.
Personne, dit-il à son retour. La chambre est vide. 3 chemises, un costume, des objets de toilette, une boîte de maquillage dont on vient de se servir et qui n'est même pas refermée.
Le Péruvien a dû se grimer avant de filer.
Un complice, certainement, dit Mauléon.
Ils étaient donc 3.
Monsieur le directeur, qui habitait la chambre située à côté de la salle de bain occupée par Beamish?
On consulta le plan de l'hôtel. Le directeur déclara, très étonné.
Cette chambre était louée à monsieur Beamish.
Comment cela?
Depuis le début de son séjour, il avait pris les 2 chambres.
Ce fut de la stupeur. Mauléon résuma.
Ainsi donc, selon toute vraisemblance, on peut affirmer que les 3 compères habitaient les uns près les autres au même étage. Marco Savisto au numéro 345, Beamish au 337, et Arsène Lupin dans la chambre voisine qui lui servait de retraite depuis sa fuite du bar de la rue Marbeuf, et où il se remettait de sa blessure, soigné, gardé et nourri par Beamish, avec tant de discrétion et d'habileté que le personnel de l'étage ne s'est même pas douté de sa présence. Toute cette situation fut exposée devant M. Gauthier, le directeur de la police judiciaire qui venait d'entrer et qui avait écouté l'exposé de la situation fait par le commissaire Mauléon. M. Gauthier approuva, se fit donner quelques explications supplémentaires et conclut. Bimiche prit. Si ce n'est pas Lupin qui a usé de la carte, il est encore dans l'hôtel. Et en tout cas, le Péruvien s'y trouve, lui. Les recherches sont donc singulièrement plus faciles, et toute consigne peut être levée. Un inspecteur, à chaque entrée, surveillera les allées-venues. Moléon, veuillez visiter les chambres. Visite courtoise, sans perquisition ni interrogatoire. Victor vous assistera. Moléon objecta. Victor n'est pas ici, chef. Mais si. Victor ? Parfaitement, Victor de la brigade mondaine. Quand je suis arrivé, nous avons échangé quelques mots. Il causait avec ses collègues et avec le portier de l'hôtel. Appelez-le, Roubaud. Victor se présenta, guindé dans son veston trop étroit, l'air enfrogné comme à l'ordinaire. « Vous étiez donc là, Victor ?» demanda Moléon. « J'arrive, » répondit-il. « Juste le temps de me faire mettre au courant. Tous mes compliments. L'arrestation de l'anglais, c'est un gros atout. »« Oui, mais Lupin. » »« Ça, Lupin, ça me concerne. Si vous n'aviez pas précipité les choses, je vous le servais tout rôti, votre Lupin. »« Que vous dites ?» Et son complice, Marcos Avisto, un Brésilien. Tout rôti également. C'est un de mes bons amis, ce Marcos, un garçon charmant. Et rudement fort, il a dû vous passer sous le nez. Moléon haussa les épaules. Si c'est là tout ce que vous avez à dire. Ma foi, oui. Cependant, j'ai fait une petite découverte. Oh, insignifiante. Et qui n'a peut-être pas de rapport avec notre affaire. Quoi encore? Sur votre liste, n'y a-t-il pas un autre anglais du nom de Murding? Oui, Hervé Murding, il était sorti. Je l'ai vu qui rentrait. J'ai questionné le portier à son propos. Il occupe une chambre au mois, où il couche rarement, et où il ne vient qu'une ou deux fois par semaine, l'après-midi. Une dame, toujours la même, élégante, soigneusement voilée, l'y rejoint, et ils prennent le thé ensemble. Cette dame, qui l'attend parfois dans le hall, est venue tantôt avant que Murding fût arrivé, et devant l'agitation et le tumulte ici, elle est repartie. Peut-être serait-il bon que l'anglais Murding soit convoqué. Roubaud, vas-y, ramène-nous l'anglais Murding. Roubaud s'élança et ramena un monsieur qui n'avait certainement pas le droit de se faire appeler Hervé Murding et qui n'était certainement pas anglais. Moléon, qui le reconnut aussitôt, s'écria, fort surpris. « Comment ? C'est vous, Félix Deval, l'ami de Gustave Jérôme, le marchand de biens de Saint-Cloud ? C'est vous qui vous faites passer pour anglais ?» Félix Deval, l'ami de Gaston Jérôme, le marchand de biens de Saint-Cloud, avait l'air assez penaud. Il essaya bien de plaisanter, mais son rire sonnait faux. « Oui, n'est-ce pas ? Ça m'écommode d'avoir un pied-à-terre à Paris quand je vais au théâtre. »« Mais pourquoi sous un autre nom ? Une fantaisie. Vous avouerez que cela ne regarde personne. »« Et la dame que vous recevez ? Une amie. »« Une amie, toujours voilée ? Mariée, peut-être ? Non, non, mais elle a des raisons. » L'incident paraissait plutôt comique. Mais pourquoi cette attitude embarrassée, ces hésitations? Il y eut un instant de silence, puis Moléon, qui avait consulté le plan, prononça « La chambre de Félix Deval est également au troisième étage, tout près du petit salon d'hiver où l'on a frappé l'anglais Beamish. » M. Gauthier regarda Moléon. La coïncidence les frappait tous les deux. Devait-on voir en Félix Deval un quatrième complice? Et la femme voilée qui lui rendait visite, n'était-elle autre que la dame du ciné Balthazar et que la meurtrière d'Élise Masson? Ils se tournèrent du côté de Victor. Celui-ci haussa les épaules et formula avec ironie « Vous allez trop loin. Je vous ai dit que l'incident était secondaire, un hors-d'œuvre, pas davantage. Tout de même, il faut l'éclairer. » M. Gauthier pria Félix Deval de se tenir à la disposition de la justice. « Parfait, » conclut Victor. « Maintenant, chef, je vous demanderai de me recevoir un de ces prochains matins. »« Du nouveau, Victor ?»« Certaines explications à donner, chef. » Victor, qui se dispensa d'accompagner le commissaire Moléon dans l'exploration de l'hôtel, jugea prudent d'avertir la princesse Basileïev. L'arrestation de l'anglais Beamish pouvait amener, en effet, des révélations dangereuses pour elle. Il se glissa donc dans la pièce du standard téléphonique et, toute consigne étant levée, prit à la demoiselle de lui donner la communication avec le numéro 345. Le numéro 345 ne répondit pas. « Insistez, mademoiselle. » Nouvel appel inutile. Victor alla s'enquérir auprès du portier. « La dame de l'appartement 345 est-elle sortie ?»« La princesse Basileïev ? Elle est partie, il y a une heure environ. » Victor en reçut un choc désagréable. « Partie, tout d'un coup ? Oh non ! Tous les bagages ont été enlevés hier et sa note payée dès ce matin. Il ne lui restait qu'une valise.
Victor n'en demanda pas davantage. Après tout, n'était-il pas naturel qu'Alexandra Basileïev s'en fût allé et que l'on ne se fût pas opposé à son départ? Et d'un autre côté, qu'est-ce qui la contraignait à attendre son autorisation à lui, Victor?
Tout de même, il enrageait.
Lupin évanoui, Alexandra disparue, où et comment les retrouver ?